Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 juin. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle semaine d'émissions autour de l'actualité en Mayenne. Semaine évidemment du lundi au vendredi. On commence aujourd'hui avec une émission bien remplie où on va parler de cinéma à Laval, en l'occurrence de ce nouveau cinéma associatif qui va ouvrir ses portes fin novembre. Vous le connaissez, vous connaissez peut-être la salle, en tout cas l'avant-scène, qui va vraiment officiellement devenir un cinéma associatif. On verra comment ça va se passer, quelle va être la programmation. Et puis, on va aussi parler des premiers noms du Festival d'humour Les Embuscades du côté de Cossé-le-Vivien. Premier nom. Donc, les 10 premiers noms viennent d'être dévoilés il y a quelques jours. L'occasion de découvrir des noms connus, effectivement, mais aussi d'autres spectacles tout aussi sympathiques, peut-être moins connus, mais en tout cas qui donnent envie d'aller gratter un petit peu et effectivement d'aller voir et de découvrir encore un petit peu plus cette programmation. Et puis on ira sur les routes d'Europe à vélo, et oui, rien que ça. Alors bon, évidemment, on n'a pas été sur leur porte-bagages, qu'ils n'ont pas d'ailleurs, ils n'ont pas de porte-bagages, mais en tout cas, ces deux Sud-Mayennais se sont élancés il y a quelques jours maintenant, c'était début juin, de Château-Gontier pour une grande boucle à travers plusieurs pays d'Europe, grande boucle à vélo, pour un projet évidemment sportif, puisqu'il faut quand même le faire, personnel, mais aussi avec une dimension environnementale très importante, puisque l'idée c'est aussi pour eux d'aller à la rencontre de plusieurs personnes qui vivent dans des écolieux, alors en France ou à l'étranger d'ailleurs, et de recueillir justement leurs témoignages, comment faire pour vivre un petit peu en dehors du système, c'est en tout cas l'objectif. On a justement interrogé l'un de ces jeunes avant qu'ils partent, donc avant le 3 juin, avant qu'ils partent, pour voir un peu quels étaient leurs objectifs, comment ils étaient équipés aussi, et puis qu'est-ce qu'ils espéraient retirer de cette expérience-là. Et puis, plutôt dans une deuxième partie d'émission, vous retrouverez un coup de cœur littéraire, celui de Christophe Demiranjou, avec un livre qui s'appelle « L'alphabet du silence », évidemment. Mais d'abord, on va commencer par ce cinéma associatif, ce nouveau cinéma associatif qui ouvrira ses portes en novembre à Laval. L'avant-scène, donc, qui appartient à la Ligue de l'enseignement en Mayenne, va devenir officiellement un cinéma associatif art et essai. Il ouvrira ses portes au grand public fin novembre. Des travaux de remise aux normes vont être entrepris à partir de la mi-septembre pour un coût total de 280 000 euros. Et côté programmation, 200 films devraient être projetés par an, soit 20 à 25 séances par semaine, avec de nombreux ciné-débats. Explication avec les porteurs de projets.
Moi, c'est Karen Raymond. Je travaille actuellement au sein de la Ligue de l'enseignement de la Mayenne. Je suis chargée de mission culture et puis plus spécifiquement sur le volet cinéma.
Et donc moi, je suis Julien Favreau, donc je suis directeur général de la Ligue de l'enseignement, donc FAL 53.
Notre idée de départ est de pouvoir ouvrir la salle de l'avant-scène, donc nous en sommes les propriétaires. Et actuellement, voilà, on voit bien que les habitants passent parfois leur chemin sans forcément toujours voir moi, ce que j'appelle cette très belle dame. C'est un très bel écrin et l'idée, c'est de pouvoir lui redonner tout simplement une identité, pouvoir créer une saison culturelle, donc plus spécifiquement cinématographique, mais pouvoir recevoir les spectateurs. L'idée est vraiment de rendre l'ensemble de notre programmation accessible à toutes et tous. Ça, c'est vraiment l'idée. Donc, en allant travailler avec des partenaires très, très différents, hein, que peuvent être effectivement les écoles, ça c'est essentiel, les collèges, les lycées, mais aussi toutes les structures telles que la maison d'accueil des femmes, le réseau de lecture publique de Laval Agglomération. Vraiment travailler avec l'ensemble de ce qui fait la richesse sociale, culturelle de notre territoire, de la Mayenne. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les films, c'est de faire ces propositions en commun. Notre programmation sera vraiment uniquement centrée sur l'art et essai du cinéma du patrimoine, du cinéma de recherche, du cinéma de découverte, sur des cinémas au registre très très varié. Hein, donc on veut vraiment travailler autour du documentaire, autour de ce qu'on appelle nous les images animées, donc les films enfants certes, mais pas que, les films pour adultes aussi.
À la fois effectivement de pouvoir, on va ouvrir une buvette, un petit bar buvette pour venir avant, pourquoi pas, et après, et aussi dans le sens où on veut beaucoup de ciné-débats, en lien avec des associations avec lesquelles on travaille énormément pour l'instant. Ça peut être avec en lien avec la laïcité par exemple, avec puisque c'est quelque chose qu'on porte, ou sur la lutte contre les discriminations puisqu'on coordonne aussi Unissons nos différences. Ça sera la même salle, il y aura juste les fauteuils qui vont changer pour être plus à l'aise et puis pour être sur les standards cinéma, et on va réaménager en fait le hall effectivement pour avoir une petite buvette. On a déjà beaucoup de bénévoles qui nous ont sollicité pour, enfin on a quasiment 10-15 personnes qui nous ont sollicité pour être bénévoles dans ce lieu. On fait une réunion le 28 juin à 18h, donc à l'avant-scène, et également dans l'après-midi d'ailleurs pour ceux qui ne pourraient pas être là à 18h, pour faire un peu une porte ouverte aussi et pour pouvoir impliquer un maximum de personnes, parce qu'on aura besoin de bénévoles pour faire vivre ce cinéma. Je crois qu'on est sur 500 000 entrées pour le Cinéville. Nous, on sera voilà, sur une première année à 16 000, donc on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Et puis je pense que notamment sur la question de l'arrêt d'essai, il y a vraiment une complémentarité. De toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, on ne peut pas tout passer. Donc il y a des choix à faire, donc de toute manière, il n'y a pas de concurrence, c'est clair.
L'avant-scène continuera à accueillir, comme c'est déjà le cas, des spectacles ou des conférences, mais proposera donc essentiellement des séances de cinéma à 85% du temps à peu près. Et une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, est lancée pour soutenir ce projet. Et donc, on le rappelle, une réunion est organisée mercredi 28 juin à 18h sur place si vous souhaitez devenir bénévole ou en tout cas en savoir un petit peu plus sur le projet. Et là, alors on reste un petit peu dans ce même univers culturel, même si ça n'a rien à voir, puisque ce sont les 10 premiers noms du festival Les Embuscades qui viennent d'être dévoilés il y a quelques jours. Le festival d'humour à Cossé-le-Vivien a pris un peu d'avance cette année pour sa 38e édition, qui aura lieu du 28 septembre au 14 octobre, je le disais, à Cossé-le-Vivien, mais aussi aux communes alentours, avec toujours le même ADN, proposer toutes les déclinaisons de l'humour, du théâtre, du clown, du café-théâtre ou encore de la danse. Et à commencer par l'ouverture du festival par Christophe Alévêque, présenté par Jean Loury, directeur artistique du festival.
Christophe Alévêque, moi je l'ai vu il y a très 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 longtemps, et je l'avais un petit peu oublié, puis il y a 7-8 mois de ça, on l'a découvert au festival de Matignon auprès de Saint-Brieuc avec un spectacle qui s'intitule « Vieux con » avec un point d'interrogation. Et c'est l'histoire d'un papa qui raconte à son fils le monde qu'on lui a préparé dans le contexte actuel. Et en résumé à la méthode Christophe Alévêque, c'est à la fois très drôle, ça lui prépare quand même à un monde meilleur en faisant quand même très attention de tout ce qu'on a vécu. Mais il y a très très longtemps que pendant 1h15, avec l'équipe, parce qu'on était plusieurs à voir ce spectacle-là, on était morts de rire tellement c'est criant d'actualité, de vérité, mais tout ça avec un sens de l'humour extrêmement aigu, c'est vraiment très très agréable. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec Christophe Alévêque, mais c'est une compagnie qui s'appelle la Compagnie Zygomatique, qui sont des gens de théâtre à la base et qui vont nous parler d'écologie, qui vont nous parler de climat effectivement, et qui ont recensé un petit peu toutes les problématiques et cette terre qu'on a malheureusement un petit peu galvaudée depuis quelques temps, et ils vont nous donner un petit peu des, non pas des leçons mais des solutions probablement qu'il faudrait mettre en place. C'est un spectacle qui a eu un coup de cœur à Avignon, qui a été pour moi aussi l'une de mes références, et on a le plaisir de l'accueillir à la salle craonnaise, et je pense que ça va effectivement envoyer des messages. Ça ne va amener qu'une petite pierre à l'édifice, mais dans le contexte actuel, je crois que c'est extrêmement utile. C'est la conclusion de cette 38e édition. Ça aura lieu les 13 et 14 octobre, après 17 jours d'humour pratiquement. Eh bien, on cherche toujours effectivement à mettre un petit peu les spectacles qui ont, on va dire, waouh, c'était génial. Et moi, quand j'ai vu ce spectacle-là, c'est ce que je me suis dit. Ça s'appelle Les Virtuoses, c'est deux frères qui sont à la base des super pianistes, vraiment des pointures, qui passent dans tous les univers musicaux, qui vont de la pop en passant par les Beatles, en passant par Mozart. Tout ça avec de l'acrobatie, on est proche de l'univers du mime de Charlie Chaplin, avec aussi des numéros de magie qu'ils arrivent à intégrer tout en jouant du piano. C'est incroyable, avec des lumières magnifiques. Et je pense que le public se lèvera pour une standing ovation pour conclure cette 38e édition sur ces deux soirées avec les Virtuoses. On est très très heureux de les accueillir pour conclure cette nouvelle édition.
Et effectivement, là, on a évoqué 3 des 10 premiers noms du Festival des Embuscades du côté de Cossé-le-Vivien. Les autres sont à découvrir sur le site lesembuscades.fr. Et puis, sachez que l'ensemble de la programmation, lui, sera annoncé début juillet, à la fois sur ce même site et sur les réseaux sociaux du Festival Les Embuscades. Et je vous propose aussi, eh bien, même si on n'a pas pu en parler avec Jean-Loury, en tout cas de les entendre, la compagnie des Zingues, qui sera sur scène le 1er octobre à 19h30 à Athée, avec une des chansons d'humour, on va dire, à leur image. Et là, en l'occurrence, ils interprètent Bonite, là, sur ce morceau de Cargo Winch, en tout cas, mais c'est bien la compagnie des Zingues qu'on écoute tout de suite. De la compagnie des Zingues que vous pourrez retrouver au festival Les Embuscades au mois d'octobre prochain du côté d'Athée. En l'occurrence, ce sera le 1er octobre à 19h30. Remake, bien évidemment, vous l'avez reconnu, de la chanson Beat It de Michael Jackson, évidemment. Et là, on va enfourcher notre vélo. Alors, vous, je ne sais pas, mais eux l'ont déjà fait. Et oui, c'est deux Mayennais sur les routes européennes, à l'assaut des routes européennes pendant 3 mois. Théo et Lucas sont tous les deux originaires du sud Mayenne, près de Château-Gontier pour l'un et de Cran pour l'autre. Et depuis 15 jours, ils chevauchent leur vélo. Actuellement, ils sont en Belgique pour un défi sportif, personnelle, mais aussi écologique, par leur mode de transport d'abord, puisque oui, ils n'utilisent que leur vélo, mais aussi par leur halte dans différents écolieux déjà identifiés. Il y a quelques jours du départ, nous avions tendu le micro à Lucas, bénéficiaire d'une bourse de 500 euros par le pays de Château-Gontier, pour soutenir les initiatives des jeunes.
Donc, je m'appelle Lucas Ivoire, j'entreprends un voyage à vélo, donc un tour d'Europe en vélo de plus de 4350 km pour mettre en lumière des modes de vie et des moyens de voyager plus sobres et plus respectueux de l'environnement.
Donc, le départ est imminent puisque c'est prévu ce samedi, mais c'est forcément un projet qui s'est réfléchi depuis un certain temps. Comment est venue déjà cette envie-là, sachant que vous partez avec un autre coéquipier, vous ne partez pas tout seul ?
C'est ça. Donc, en gros, ça fait maintenant un an et demi que je prépare le voyage, enfin qu'on prépare le voyage. On a été dans la même école à l'époque, Polytech Angers, il y a quelques années. On a été diplômé il y a peu. Et il s'avère qu'avec le Covid et les événements autour du Covid et la fermeture des frontières, on n'a pas pu partir à l'étranger durant notre cursus scolaire alors que c'était obligatoire. Ce qui fait que lors du moment qui a suivi le Covid, on a réfléchi à trouver un moyen de voyager. On est tous les deux cyclistes au quotidien. Personnellement, j'ai fait beaucoup de raids multisports, des championnats de France et du triathlon pendant mes études. Donc ça m'a paru logique de voyager à vélo. Je le faisais déjà en fait pendant mon école d'ingénieur pendant les week-ends. Donc on a décidé de partir pendant 3 mois faire le tour de l'Europe en vélo.
Avec cet objectif, en effet, vous partez avec un micro, peut-être pas comme le nôtre, mais presque, de recueillir aussi ces témoignages de personnes qui vivent dans des éco-villages, c'est ça ?
C'est ça. Donc, on a construit l'itinéraire au fur et à mesure du temps, donc en rencontrant et en cherchant des éco-villages, des écolieux autour de l'Europe. Donc les écolieux, ce sont des endroits qui rassemblent des communautés autour d'un lieu. Ces communautés peuvent être liées par un même objectif, qui peuvent être la permaculture, qui peuvent être des lieux de retraite spirituelle. Donc ça va vraiment, des lieux d'éducation également, ça va vraiment dépendre des typologies d'écolieux. Mais notre objectif, ça a été de construire l'itinéraire autour de ces lieux. Et donc à partir de là, donc on va récolter des témoignages pour essayer de montrer, enfin de récolter leur avis sur aujourd'hui le modèle capitaliste, le modèle économique donc mondial sur lequel nous nous basons, d'essayer de voir dans leur tiers-lieu comment ils vivent et si ça fonctionne.
C'est des tiers-lieux, des éco-villages, des écolieux que vous avez découverts au fil de vos recherches.
C'est ça, des recherches principalement sur Internet. En fait, ils sont recensés, c'est des grandes communautés. Donc, il y a une vraie communauté même sur tous les éco-villages d'Europe. C'est un vrai réseau. Donc, ça a été facile de les trouver au final.
Donc, ça veut dire que 3 mois avec ce parcours donc, lié aux éco-villages que vous avez repérés, très concrètement, ça veut dire que votre parcours, il va ressembler à quoi à peu près sur une carte ?
Donc, on part du pays de Château-Gontier, donc de Château-Gontier, pardon, le samedi 3 juin, donc à 10h. Et à partir de là, on va se diriger, donc notre premier objectif, ça va être le Mont-Saint-Michel. On va se diriger directement vers la côte, puis on va suivre la côte française avec un premier éco-village autour de Caen. Et on va rapidement remonter vers la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche, la Slovénie. Et ensuite, on va soit rattraper l'Italie au-dessus de la Méditerranée, soit on va descendre en Croatie pour prendre le ferry, arriver à Venise. Et après, continuer du coup dans le nord de l'Italie pour rejoindre la France et remonter la France du coup durant le mois d'août.
Effectivement, ça c'est ce qui est prévu. Évidemment, entre chaque, j'imagine que vous avez prévu de bivouaquer. Vous avez tout ce qu'il faut sur votre vélo.
C'est ça. Donc, on a prévu d'être, on va dire, à 80% en bivouac. Donc, au fur et à mesure du voyage, on va également rencontrer des personnes qui vont peut-être nous héberger. Mais en règle générale, on est prêt à vivre un peu n'importe où. C'est ça qui fait l'avantage du voyage à vélo, c'est qu'on peut vraiment vivre n'importe où avec le matériel qu'on a aujourd'hui.
Alors, ça va être difficile puisqu'on est à la radio, mais si vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi ressemble votre vélo.
Ouais, bien sûr. Donc, c'est un vélo qui est typé gravel. Donc, c'est entre le vélo de course et le VTT. Donc c'est plutôt un cintre course avec des pneus plus larges, pour faire simple. Donc on est équipé en ultra light au niveau des sacoches, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les sacoches à l'arrière comme les gens qui font du cyclotourisme. On va avoir une sacoche de selle qui va remonter derrière la selle justement. Donc dans cette sacoche, il va y avoir donc la tente, le matelas et l'oreiller. Ensuite, donc on a une sacoche de cadre où il va y avoir tous les éléments plutôt électroniques, quelques éléments administratifs, les passeports, donc les choses qui sont un peu plus fines. On a également, personnellement, j'ai deux grosses sacoches sur la fourche, donc à droite et à gauche, avec d'un côté le matelas, de l'autre la popote, le réchaud, de quoi cuisiner, donc les ustensiles. Et également le stabilisateur qui nous permettra de filmer de manière propre durant le voyage. Et enfin, donc, j'ai une sacoche à l'avant sur le cintre où est située l'intégralité de mes vêtements et une sacoche qui est plutôt rapide à enlever pour récupérer tout ce qui est nourriture.
Tout est vraiment optimisé.
C'est 100% optimisé, c'est Tetris à chaque fois que je veux rentrer quelque chose dans une sacoche. Donc ouais, c'est vraiment tout optimisé pour être le plus léger possible et prendre le plus de plaisir aussi sur le vélo.
Qu'est-ce qui finalement était important dans ce voyage-là, puisque vous l'avez dit, vous préparez ça depuis plusieurs années maintenant, là le départ approche. Qu'est-ce qui vous tient à cœur vraiment tous les deux dans ce projet-là?
C'est la verticale écologique, montrer qu'il est possible de vivre et de voyager d'une autre manière. Nous, aujourd'hui, on est prêts, on va partir pendant 3 mois. Et donc, c'est vraiment une pause estivale et on va prendre du plaisir pendant tout le voyage. C'est ça qui est intéressant. On ne va pas se déplacer d'un point A à un point B, prendre du plaisir au point B et revenir. Nous, c'est nos vacances, entre guillemets, notre moment de pause. C'est vraiment un voyage, c'est ça qui va être super intéressant et on va pouvoir vivre aussi dans des conditions assez compliquées avec un défi sportif qui est aussi important, donc 4350 km c'est pas non plus rien. Et donc pour revenir sur la variante écologique, c'est vraiment récolter des témoignages de personnes qui sont pas forcément interviewées aujourd'hui ou du moins pas sur les grosses chaînes médiatiques. Et de montrer qu'il est que vivre en fait sur plus sobrement et de manière plus respectueuse dans l'environnement, c'est possible.
Et ça, justement, ces témoignages-là, où est-ce qu'on pourra les retrouver?
Ça sera sur Instagram. On a une page qui s'appelle Projet en roue libre, donc @projet en roue libre sur Instagram.
Peut-être plus personnellement, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de ce voyage-là?
Personnellement, j'attends beaucoup des rencontres. Ça existe depuis longtemps, le voyage à vélo, bien sûr. Et on sait tous que les gens, ils en ressortent changés de par les rencontres qu'ils vont réaliser, mais également le fait de se surpasser sportivement. Donc moi, c'est vraiment l'aspect rencontre qui m'attire. Le fait de rencontrer des personnes qui vivent d'une manière complètement différente, voire opposée à notre système aujourd'hui. Je suis également curieux de voir les modes de vie qu'on va découvrir et aussi prendre du plaisir sur le vélo parce que c'est aussi une de mes passions. Donc ça va être un réel plaisir durant ces 3 mois.
Je me doute que ce n'est pas forcément évident de se libérer pendant 3 mois, donc que vous n'aurez pas forcément... C'est un peu l'occasion d'une vie, quoi, finalement.
Exactement. Oui, je pense que j'ai eu la chance et une opportunité pour moi parce que j'avais prévenu mes employeurs il y a maintenant... très longtemps, un an et demi, quand j'ai commencé à préparer le voyage, je les avais prévenus que je ne resterais pas forcément parce que j'avais prévu de faire ce voyage. Au final, ils me libèrent, ils m'offrent l'opportunité de partir pendant 3 mois et de me réembaucher après. Donc c'est vrai, c'est une chance d'une vie. Et après, ça arrivera peut-être plus régulièrement dans le futur, mais pas 3 mois, je ne pense pas.
Pour faire la boucle, c'était important aussi. Est-ce que c'est les pays que vous allez traverser, il y en a certains que vous connaissez déjà ou pas du tout?
Non, ce qui est marrant, c'est que Théo et moi, on devait partir en voyage du coup durant notre cursus scolaire. On devait partir tous les deux en République tchèque et il se retrouve que c'est un pays sur lequel, pour lequel on va on va passer en République tchèque, donc ça va être cool. Et sinon, non, pas réellement. J'ai jamais fait les autres pays, en fait. Donc ça va être 100% découverte.
Et après ce voyage de 3 mois, l'objectif est bien de rentrer en Mayenne fin août avec tous leurs souvenirs et aussi de nombreux témoignages dans leur besace pour notamment plusieurs restitutions auprès des scolaires du territoire. Et si vous souhaitez suivre leurs aventures au jour le jour ou presque, rendez-vous sur leur compte Instagram, projet en roue libre, tout simplement. On va parler littérature d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Pierre Demar avec ce titre, Un jour je marierai un ange.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Et aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Jamais comme au cinéma, décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change.
Pierre Demar dans l'agité du local sur l'autre radio, bien sûr. Vous êtes bien soit sur le 107.9, soit le 101.7, ou évidemment sur l'application ou le site l'autreradio.fr. À l'écoute donc de votre émission quotidienne l'agité du local. Et on va passer à la chronique de ce jour. Et oui, après le coup de cœur littéraire d'Éoline vendredi, je vous propose d'écouter celui du libraire d'Emlirangeau, Christophe.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Allez, cette fois-ci, je vais dire bonjour, hein, d'accord? Parce que la dernière fois, tu m'as dit, mais attends, t'as pas dit du tout bonjour. Bon, allez.
Bonjour! Je vais vous parler d'un très gros coup de cœur que j'ai eu pour le dernier livre de Delphine Minoui aux éditions L'Iconoclaste, qui s'intitule « L'alphabet du silence ». L'autrice, elle est connue pour avoir eu un grand succès avec les passeurs de livres de Daraya. C'était un très beau livre autour d'une bibliothèque en Syrie. Et voilà, ce livre avait beaucoup marqué les esprits. Eh bien, pour la première fois, elle va quitter le registre du récit pour nous emmener sur les terres du roman. Alors, c'est un roman qui parle de la Turquie. C'est un roman qui parle d'amour, qui parle de liberté, qui parle d'expression dans un pays qui est, depuis l'arrivée d'Erdogan, muselé. Alors, ça va être un universitaire qui, pour avoir signé une pétition pour la paix, eh bien, va se retrouver enfermé et il va devoir passer des mois et des mois en prison, et tout ça dans la plus grande inquiétude de sa femme qui, elle, va passer par tous les états, l'état de la sidération, l'état de désespoir et puis aussi l'état de l'espoir, puisque elle va être emportée par un grand sentiment de résistance et par une volonté de liberté très forte. Alors, cette spécialiste cette romancière, cette spécialiste du Moyen-Orient va nous parler de la Turquie d'aujourd'hui et la Turquie d'hier, et on apprend plein de choses. Ça nous met en alerte par rapport à ce qui se passe dans un pays extrêmement important d'un point de vue géopolitique. Voilà, ne passez pas à côté de l'alphabet du silence de Delphine Minoui.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 place Paul Doumer, à Château-Montier, et sur l'autre radio.
Et oui, notre programmateur farceur qui a gardé la petite introduction, en tout cas, à cette chronique. Et oui, la chronique de Christophe, qu'on aime bien, même lorsqu'il oublie de nous dire bonjour, en tout cas. Et que vous pouvez réécouter déjà sur notre site l'autreradio.fr. Et puis, je ne l'ai pas fait en tout début de cette émission, donc petit rattrapage avec 3 titres, en tout cas, dans l'actualité en Mayenne aujourd'hui, avec 1 an de prison pour l'homme qui avait menacé des lycéens à Château-Gontier, également un surveillant d'internat, celui du lycée Victor Hugo. Les faits remontent au 25 mai dernier. Cet homme âgé de 29 ans avait donc menacé les élèves et le surveillant d'internat avec un revolver. Il était très alcoolisé. Il a été jugé vendredi dernier au palais de justice de Laval. Il met en avant des problèmes familiaux qui expliquent ses problèmes d'alcool et donc son comportement ce jour-là. Il a été donc condamné à 1 an de prison avec une obligation de soins, de travail, interdiction de paraître dans 4 rues près du lycée Victor Hugo et interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Vous le savez, ce week-end, des orages se sont abattus en Mayenne. À Laval, ils ont notamment été la cause de l'interdiction de nombreux événements en plein air, entre autres le triathlon de Laval, la version M, qui a été annulée. Et là, dans le sud Mayenne, plusieurs communes, elles, demandent une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est le cas pour les élus de Bouchamp-l'Écran et de La Boissière, mais là, non pas pour les orages de ce week-end, mais pour ceux de mardi dernier. Alors que des hangars ont été soufflés, il y a également eu des coulées de boue, des arbres arrachés avec des impacts sur les cultures. Et on termine par une bonne nouvelle, ce double titre historique pour l'Étoile lavalloise Futsal, avec un premier titre de champion de France décroché samedi soir après avoir gagné 5-3 contre le Sporting Paris, une semaine après avoir remporté la Coupe Nationale contre ce même adversaire. Et avec évidemment la joie des supporters allés sur place puisque c'était à Caen, et même reçu hier à la mairie de Laval, hier après-midi, les joueurs, les supporters là aussi, et la joie du coach de l'équipe André Vanderlei qui dit avoir attendu 7 ans pour ce moment magnifique, bien sûr. En tout cas, ça signe la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi 19 juin. Restez bien à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h, il y aura l'émission Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque des collègues de Morgane. Et oui, à découvrir ce soir. Et nous, on revient demain pour un nouvel Agité du Local. Je vous souhaite une très belle journée.